président. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui et je suis très heureux de participer à ce colloque portant sur la notion très riche d'institution. Et je remercie également les organisatrices et l'organisateur de ces rencontres pour leur précieux travail et aussi d'avoir eu la bonne idée de placer mon intervention juste derrière celle de Jeanne-Marie Roux, qui me place ainsi sur d'excellents rails pour présenter à mon tour la notion d'institution chez Claude Lefort. Je dis cela car, affirmons-le tout de suite, Lefort prend appui sur un certain nombre de postulats de Merleau-Ponty pour construire sa propre pensée de l'institution. Et l'ambition finalement de la communication que je vais faire est d'illustrer la façon dont fonctionne cette récupération et la manière dont elle se déploie au sein de ce que l'on appellera par commodité de langage la théorie lefortienne de l'institution. Commodité de langage, car il faut immédiatement préciser que Claude Lefort n'a pas développé à proprement parler une pensée de l'institution, c'est-à-dire une théorie de l'institution au sens strict, au sens où l'on entend par exemple le juriste comme institution-organe, ou même plus largement comme un ensemble de règles et de procédures juridiques et politiques vouées à encadrer un domaine défini de relations sociales. En revanche, il est possible de dire que Claude Lefort développe ce que l'on pourrait appeler une pensée de l'institutionnalisation, c'est-à-dire une pensée de l'institution envisagée, non pas dans sa réalité fixe ou statique, mais avant tout comme un phénomène dynamique, en mouvement perpétuel, se renouvelant sans cesse, et dont l'institution organe n'est qu'une des manifestations, et certainement pas la plus importante. Pour autant, ce mouvement dynamique n'existe pas comme une fonction unilatérale, mais doit au contraire se comprendre comme marqué par une forte circularité interne. Car pour Lefort, et j'expliquerai ce point un peu plus loin, il ne saurait y avoir de coupure entre l'acte de fondation d'une institution d'un côté et son avènement en tant qu'institution instituée de l'autre. Pour prendre un exemple concret, il n'est pas possible dans le système de Lefort de séparer en deux moments distincts celui de la mise en œuvre, par exemple, du pouvoir constituant d'une part, entendu comme pouvoir créateur, et celui de la mise en place du ou des pouvoirs constitués d'autre part, entendu comme institution créée. L'institution, au sens lefortien, est tout à la fois, si je puis dire, acte et puissance. Tout acte instituant crée de l'institué, et cet institué est à son tour instituant. C'est ce que Lefort, empruntant le terme à Merleau-Ponty, nomme réversibilité. L'institution instituante est toujours instituée, et l'institution instituée est également toujours instituante. C'est cette spécificité, on pourrait dire cette difficulté de la pensée de Lefort, qui fait tout à la fois son intérêt et sa limite. L'emploi singulier qu'il fait de l'idée d'institution, et qui doit beaucoup à un certain usage de la langue sur lequel nous reviendrons, permet d'éclairer sous un jour inédit la notion qui en sort enrichie. Mais dans le même temps, cet emploi singulier trouve une limite concrète, car il n'est au fond d'aucune utilité, je pourrais dire, pratique, notamment pour nous juristes. En d'autres termes, Lefort propose une pensée de l'institution qui se veut une tentative de description de sa nature ontologique. Exigence qui l'amène à renoncer à toute prétention normative sur celle-ci et partant à toute ambition, je l'ai dit, pratique. Je vais donc tenter de déplier cette articulation conceptuelle lefortienne et essayer d'illustrer le fonctionnement de l'idée de réversibilité dans le système lefortien. Je me limiterai pour ce faire aux articulations internes à l'œuvre de Lefort sans prendre en considération les motivations externes, c'est-à-dire d'ordre politique qui ont présidé à un tel dispositif théorique. Cet échafaudage théorique lefortien se constitue relativement tôt dans sa carrière et les œuvres pouvant être considérées comme germinales sont non seulement ces deux grands livres que tout le monde connaît sur Machiavel et Solzhenitsyn, datant respectivement de 1972 et 1976, mais encore les textes consacrés précisément à Merleau-Ponty, que Lefort publie dans un livre d'hommage en 1978, intitulé « Sur une colonne absente ». Les textes que je citerai au fil de cet exposé appartiennent également au corpus plus récent de Lefort, les recueils d'articles comme « L'invention démocratique » de 81, « Les essais sur le politique » 86, ou par exemple le dernier recueil « Le temps présent » paru en 2007. Ces textes ont pour principal intérêt de développer dans le domaine politique, l'échafaudage théorique amorcé dans les années 70 à partir de certains postulats de Maurice Merleau-Ponty. Aussi, je ne vais pas revenir en détail sur les concepts merleau-pontiens à proprement parler, mais je voudrais simplement insister dans cette introduction sur quelques éléments de la philosophie de Merleau-Ponty qu'il s'agit d'avoir à l'esprit pour comprendre comment Lefort les reprend à son compte pour les prolonger, et on pourrait presque dire pour les appliquer, dans le cadre de sa propre philosophie politique. Si vous voulez bien, je résumerai les choses ainsi. D'abord, Merleau-Ponty pose dans sa philosophie le principe, selon Lefort, montant de l'absence de distinction entre les catégories philosophiques du sujet et de l'objet, comme dans les discussions classiques portant sur le sujet de la connaissance, l'objet de la connaissance d'une part, ou le sujet de l'action et l'objet de l'action. Mais Lefort pose le principe, pardonnez-moi d'utiliser ce mot un peu pédant, de leur indécidabilité ontologique, c'est-à-dire de leur éminente relativité, de leur ambivalence profonde, ou pour le dire plus simplement, de leur interchangeabilité. L'exemple que donne Merleau-Ponty dans sa philosophie tardive pour illustrer cette affirmation, et que Lefort va beaucoup commenter, est celui du contact des deux mains. Dans cet événement, qui est le contact des deux mains, il se passe en effet pour Merleau-Ponty cette chose étonnante, que le sujet de la connaissance, ici d'une connaissance tactile, le sujet de la connaissance, donc mettons par exemple ma main droite, lorsqu'elle saisit l'objet de la connaissance, soit ma main gauche, eh bien il se passe cette chose étonnante que se produit une réversibilité des catégories, puisque dans cet événement, le sujet main droite saisissant l'objet main gauche se trouve en même temps être l'objet de connaissance du sujet main gauche. Par ce contact, donc, la main droite comme la main gauche se trouve être à la fois, en même temps, sujet et objet de la connaissance l'une de l'autre. C'est donc le premier point, l'ambivalence, on pourrait dire la nature duale de l'être des choses, avec cette conséquence immédiate que tout le monde comprendra, qui est que si le sujet de la connaissance est également toujours aussi objet de la connaissance, alors il ne saurait y avoir pour quiconque de point de vue de Sirius, de point de vue de Dieu, ou de ce que Lefort appelle une zone de surplomb, c'est-à-dire de possibilité de s'extraire du monde pour en donner une définition, un savoir pur. En d'autres termes, la connaissance que nous pouvons avoir du monde et des choses n'est jamais complète et toujours en un certain sens oblique, grévée d'une part d'ombre, qui découle simplement de ce fait que le sujet de la connaissance ne peut se saisir lui-même en tant qu'objet de la connaissance. C'est-à-dire que la main, pour reprendre l'exemple, si elle peut palper le monde entier, et même, on l'a vu, son autre main, ne peut s'auto-saisir en tant que main. Ce premier point, de l'interchangeabilité des statuts de sujet et d'objet, a une autre conséquence d'importance. La connaissance ne pouvant être, par nature, achevée, car la position de surplomb n'existant pas, il n'est pas possible de dire « voici les choses telles qu'elles sont depuis la fondation du monde ou telles qu'elles seront jusqu'à la fin du monde », la connaissance donc s'avère être essentiellement une dynamique nécessitant une reprise permanente de l'activité de déchiffrement du monde. Hors d'être dynamique, l'activité de connaissance devient indissociable, de l'action. Car toute tentative de connaissance, d'un sujet de connaissance également objet du monde, est aussi indissociablement une action sur le monde. L'expérimentateur, faisant partie de l'expérience, le savoir issu de l'expérience, sera aussi une action sur l'expérience. C'est ce deuxième élément qu'il faut également avoir à l'esprit avant d'appréhender la théorie lefortienne de l'institution. Il y a chez Lefort en effet la reprise de l'idée merleau-pontienne de réversibilité des catégories du sujet et de l'objet d'une part, mais également l'idée qui en découle d'une forme de circularité inéluctable entre les concepts de connaissance et d'action. Toute connaissance est action, et toute action engendre une forme de connaissance. Il n'y a pas plus d'action pure que de connaissance pure, pas plus d'action divine que de connaissance divine. L'acte créateur pur, de type démiurgique, n'existe pas chez Lefort, de même que l'idée d'une connaissance intégrale omnisciente. Ce qui veut dire naturellement que la philosophie de Lefort est essentiellement une philosophie mondaine, qui considère que rien n'existe en dehors de la condition de l'homme, c'est-à-dire aussi bien de la condition de l'homme dans le monde. À ce titre, bien entendu, action et connaissance s'entremêlent. En d'autres termes, pour Lefort, tout savoir provient nécessairement d'une expérience et toute expérience crée naturellement du savoir. Cet arrière-plan merleau-pontien brièvement rappelé, je vais m'efforcer de montrer en deux temps. D'abord, comment fonctionne le système lefortien en essayant de dégager une forme de définition de l'institution lefortienne qui peut être présentée comme une pensée de l'institution comme institution symbolique. Pour m'attarder ensuite et plus particulièrement sur les répercussions théoriques concrètes d'une telle conception de l'institution, qui amène Claude Lefort à penser sous ce terme d'institution des notions juridiques aussi hétéroclites que celles de représentation ou même de droit de l'homme. dont l'institution comme institution symbolique. L'homme est au centre de la philosophie de Claude Lefort. Il est marqué par ce que je nommais tout à l'heure une indécidabilité ontologique, c'est-à-dire que l'homme est à la fois sujet et objet de la connaissance et de l'action. Bien. L'homme est également la brique élémentaire du système lefortien. Mais l'homme dans le monde n'est pas seul. Il est entouré d'autres hommes et l'intersubjectivité apparaît donc comme une dimension fondamentale de l'existence humaine. C'est ce point sur lequel je vais un peu insister qui fait, me semble-t-il, la spécificité de la pensée de Lefort. Je veux dire, poser l'homme comme être indécidable, c'est rester finalement fidèle au sillon posé par Merleau-Ponty. Mais poser le problème de cette indécidabilité dans le cadre de la multitude humaine et envisager les conséquences de cette indécidabilité aux prises avec l'intersubjectivité humaine, c'est le propre de Claude Lefort. En d'autres termes, la grande spécificité de Lefort, c'est de penser les conséquences d'une intersubjectivité naturelle de l'homme, mais pas de n'importe quel homme, de l'homme merleau-pontien, toujours sujet et objet de la connaissance et de l'action. On comprend donc l'importance que va revêtir pour Lefort la question de la vie commune des hommes, et donc les dimensions sociales et politiques de l'existence humaine, qui sont précisément les deux champs de déploiement privilégiés de l'intersubjectivité. J'ajoute que n'importe quel lecteur de Lefort sait qu'à l'usage très appuyé, il fait de termes comme « le social » ou « le politique », terme qu'il ne prend d'ailleurs jamais la peine de définir rigoureusement. Or, cette absence de définition est par elle-même significative et doit se comprendre sous deux aspects. Tout d'abord, elle témoigne justement de la répercussion au niveau des relations interhumaines, si je puis dire, de l'indécidabilité ontologique propre à l'individu homme, indécidabilité que Lefort, lui, nomme indétermination. Rien de plus normal, effectivement, que de la rencontre de deux individus ontologiquement indéterminables et indéterminés, chacun à la fois sujet et objet de la connaissance et de l'action, que de cette rencontre donc naisse un social, c'est-à-dire des relations interhumaines, elles-mêmes indéterminées. Le social ne peut donc avoir de définition stricte autre que celle d'une indétermination fondamentale, ainsi que le dira Lefort. Très bien. Mais ensuite, quid de la notion de politique ? Autrement dit, si le social reflète l'idée d'un ensemble de rapports intersubjectifs indéterminés, quel statut Lefort réserve-t-il au terme lui-même ambigu de politique ? D'abord, constatons que Lefort parle régulièrement du politique, ou utilise la notion « le politique ». Et il rattache toujours cette notion à ce qu'il nomme, je viens de le dire, le social. En effet, le politique, ou certaines de ses composantes, comme le pouvoir, est à plusieurs endroits présenté explicitement ou implicitement comme étant intimement lié à cette intersubjectivité humaine nommée sociale. Il semblerait même que cette notion de politique ne puisse exister indépendamment de son lien avec le social. Il faut donc interroger la nature de ce lien. Et on va voir que cela va nous mener à l'idée d'institution au sens lefortien. Ce lien entre le social et le politique ne connaît pas, lui non plus, de définition pleinement positive. Mais Lefort pose néanmoins quelques jalons. Dans son Machiavel, déjà, il affirme, je cite, « L'apparition du pouvoir est elle-même un moment dans l'institution du social ». Plus tard, dans son livre sur Solzhenitsyn, Un homme en trop, il déclare, je cite, « La rupture qui s'accomplit avec l'avènement de la démocratie est, en effet, beaucoup plus que politique au sens étroit, et ce n'est qu'en reconnaissant la dimension symbolique du social qu'il est possible de l'apprécier. » Une combinaison de ces termes permet donc de proposer une sorte de définition du politique au sens lefortien. Si le politique participe d'une part à l'institution du social, et s'il porte avec lui également la dimension symbolique du social, alors le politique est l'institution symbolique du social. Or, c'est précisément cette formule, le politique comme institution symbolique du social, que l'on retrouve sous diverses variantes chez Lefort, et qui permet de rendre compte du lien unissant le social et le politique, qui est un lien, précisément, d'institution symbolique. Mais il faut aller plus loin et creuser cette notion d'institution symbolique. D'abord, constatons cette chose apparemment anodine, mais en réalité fort peu banale, que grammaticalement, dans la formule « le politique est l'institution du social », pardon, dans la formule « le politique est l'institution symbolique du social », le sens n'est pas clair, car il existe une ambiguïté du génitif, du social, qui permet de comprendre cette phrase aussi bien comme signifiant que le politique est l'institution provenant du social que comme l'institution permettant le social. Cette formule, que Lefort utilise sans doute à dessein, permet de dire qu'il existe une forme de réversibilité du social et du politique qui s'institue l'un l'autre. Or, et c'est un dernier élément, cette institution est d'ordre symbolique. Cela est déjà sensible au fait qu'elle se manifeste, comme je viens de le montrer, dans la langue. En l'occurrence ici, grâce à une astuce grammaticale qui permet de replier le sens sur lui-même et d'illustrer la thèse de l'indétermination par une formule elle-même indéterminée. Mais ce caractère symbolique de l'institution peut également être démontré différemment, en rappelant les principales articulations du système lefortien et en constatant le rôle central et éminemment nécessaire du langage dans une telle construction. Alors, je précise ici que j'utilise les termes de langage et de parole dans un sens identique. Pour la clarté de mon exposé. Donc, pour le comprendre, il faut rappeler ce postulat essentiel de la philosophie lefortienne qui consiste à rabattre la totalité de la dynamique de l'action et de la connaissance auprès des individus. Ce faisant, le social, c'est-à-dire l'ensemble des individus, acquiert au travers de la mise en œuvre de l'intersubjectivité une position centrale. Cette intersubjectivité permet l'avènement de ce que Lefort nomme le politique, qui est la forme privilégiée, on vient de le voir, de l'institution symbolique du social. Or, cette mise en œuvre de la réversibilité merleau-pontienne a pour principal médium l'usage du langage, propre de l'homme et surtout support incontournable de la connaissance et de l'action. D'ailleurs, si le langage est le support du processus d'institutionnalisation symbolique, c'est également parce qu'il est précisément au cœur de l'intersubjectivité et qu'il est à la fois ce qui permet et résulte des rapports interhumains. Les hommes, en effet, sont toujours, en même temps, à la fois les maîtres et les serviteurs de la langue. Les maîtres au sens d'une maîtrise de la langue, toujours et partout nécessaire pour parler aux autres, je maîtrise le français, enfin j'espère, pour vous parler aujourd'hui, et Simon Less, par exemple, maîtrisait le chinois et pouvait s'adresser aux chinois. Mais les hommes sont également les serviteurs de la langue, dans la mesure où ils ne peuvent que s'en servir et non la modifier, telle une chose qui serait à leur disposition et qu'ils transformeraient à leur guise. D'ailleurs, s'ils le font, ce sont des fous. Quelqu'un qui appellerait une poire vache, ce serait un fou. Le sens ne serait pas partagé. Le langage est donc à la fois un attribut personnel et un bien commun. Il est ce qui lie l'homme à lui-même et aux autres. Ce type de lien est de nature symbolique, car il n'est ni un objet réel, ni un songe ou une idée. L'on comprend donc mieux quelle va être la nature de l'institution, ou plutôt du processus d'institutionnalisation chez Lefort. C'est un mouvement dynamique qui prend sa source continue dans l'intersubjectivité humaine, le social, intersubjectivité qui crée, grâce au langage, des condensations de sens dont les effets sont instituants. Ces représentations instituées sont instituantes en retour, puisque, par exemple, la multitude devenue peuple, ayant acquis le sens de peuple, s'étant instituée symboliquement comme peuple, l'est à la fois socialement et politiquement. Autrement dit, s'il faut maintenant proposer une sorte de définition de l'institution au sens de Claude Lefort, l'on pourrait dire que celle-ci est une sorte de construction symbolique, de condensation de sens pérenne, issue, et c'est important, non de la volonté, mais du mouvement naturel de l'intersubjectivité humaine, et portée par le langage. Cette condensation de sens, pardon, se manifeste, mais n'est pas fondée. Elle se stabilise, mais n'est jamais fixée. Elle organise des représentations communes et en autorise des effets très réels dans le réel. En d'autres termes, une institution, au sens de Claude Lefort, n'est pas tant une organisation politique et juridique qu'une sorte de principe. Mais pas un principe qui est issu de la volonté toute-puissante des hommes, ni évidemment de Dieu, mais un principe qui se manifeste et se pérennise au travers des échanges intersubjectifs humains. Cette définition posée, il reste maintenant à voir la manière originale qu'a Lefort de déployer cette conception en examinant successivement deux exemples qu'il présente lui-même comme des illustrations de sa théorie de l'institution. La représentation politique d'une part et ce qu'il nomme l'institution des droits de l'homme d'autre part. Donc deux institutions au sens lefortien. Dans cette seconde partie, j'aimerais donc m'attarder sur ces deux exemples qui permettent d'illustrer les différentes facettes concrètes de l'institution comme institution symbolique, au sens de lefort. Donc il s'agit, je l'ai dit, d'une part de la notion de représentation politique et de celle de droit de l'homme d'autre part. Donc je vais envisager l'une et l'autre successivement, mais avant je voudrais faire une première remarque d'ordre général qui me semble-t-il, a son importance. Je disais tout à l'heure que l'institution symbolique telle que l'entend Lefort se manifeste mais n'est pas fondée, se stabilise mais n'est pas fixée. En somme, c'est un phénomène. Et l'on pourrait dire même plus un phénomène social et politique marqué par la réversibilité. Pour Lefort donc, l'institution n'est ni une réalité organique, c'est-à-dire un ensemble de règles et de procédures juridiques et politiques déterminées, dont on pourrait trouver des exemples concrets, je ne sais pas, les institutions en France, l'Assemblée nationale, ni, et c'est également très important, même si ça se place sur un autre plan, un produit de la volonté, c'est-à-dire que l'institution, au sens lefortien, n'est jamais issue de la volonté. Comme lorsque, par exemple, on impute l'acte constituant à la volonté du peuple. C'est quelque chose qui est étranger à Lefort, ce type de réflexion. On comprend donc que Lefort n'a, on comprend donc que Lefort n'a aucune peine à déclarer que l'institution de la représentation, ou ce qu'il nomme dans un texte le système représentatif, se distingue fondamentalement du gouvernement représentatif d'une part, en tant qu'organisation juridique, et du principe représentatif d'autre part en tant que philosophie politique libérale. Donc je vais vous citer un court texte où il écrit sur Guizot, mais qui rend bien compte de cette idée. Il dit « Le système représentatif dont parle Guizot n'est pas réductible à des mécanismes juridiques, encore moins à un ensemble de règles du jeu. Il porte l'empreinte d'une élaboration spontanée de la vie sociale qui a signification philosophique. » La représentation, donc, pour Lefort, n'est ni un mécanisme juridique, c'est-à-dire une institution organe, pourrait-on dire, ni un exemple de règle du jeu, c'est-à-dire le principe de la philosophie, un principe de philosophie libérale. C'est, je le redis, un système représentatif portant l'empreinte d'une élaboration spontanée de la vie sociale qui a signification philosophique. Or, cette empreinte d'une élaboration spontanée de la vie sociale, qu'est-ce d'autre, sinon précisément, le mécanisme de l'institution symbolique au sens que lui donne Lefort. En mettant l'accent sur cet aspect souvent négligé de la notion de représentation, la représentation comme institution symbolique, Lefort ne fait cependant que signaler une dimension symbolique toujours présente dans toutes les institutions représentatives, institutions au sens d'organe. Prenons un exemple, le député français. Le député français est toujours député de la nation, et non, comme il se l'imagine parfois, député d'un découpage administratif de la population, la circonscription, ou d'une de ses fractions politiques, les électeurs. Cette fonction symbolique, député de la nation, peut être illustrée autrement. Elle n'est d'ailleurs pas nécessairement liée à une élection. La représentation de la nation a pu être autrefois endossée en partie par le roi. Et l'on songe, par exemple, aux dispositions de la Constitution de 1791 qui faisait du roi de France l'un des représentants de la nation aux côtés du corps législatif. Néanmoins, si la représentation en tant qu'institution symbolique n'est pas nécessairement reliée au mécanisme de l'élection, il n'en demeure pas moins que, pour Lefort, l'opération de suffrage apparaît quand même, dans une démocratie, comme l'exemple le plus à même de rendre compte de ce phénomène de l'institution symbolique du social. Je vais vous citer un autre texte, Lefort déclare « L'opération du suffrage détient une efficacité symbolique. Lors du suffrage, une scène est en quelque sorte aménagée où se trouve figurée la dissolution du pouvoir et avec elle la quasi-dissolution de tous les rapports sociaux particuliers, celle de la substance sociale en même temps que leur restauration. L'événement implique que non seulement le pouvoir mais la société ne sont pas organiquement constitués, en possession d'une identité naturelle, il rend sensible le phénomène de l'institution du social. » Fin de citation. La représentation politique est donc bien pour Lefort une sorte d'institution. Mais on l'a compris, ni une institution au sens organique, ni une institution fondée, créée ou constituée, c'est-à-dire une institution issue de la volonté. C'est en gardant ces éléments à l'esprit, l'institution comme réalité symbolique qui n'est ni organique d'une part, ni issue de la volonté d'autre part, que l'on peut comprendre également le sort très particulier que le fort réserve à la notion de droit de l'homme. Fait significatif, le fort parle explicitement à plusieurs reprises de l'institution des droits de l'homme. Or, que faut-il entendre par ce terme ? En premier lieu, comme la définition lefortienne de l'institution exclut l'idée d'institution organe, on est tout de suite contraint de dire que les droits de l'homme, pour le fort, ce ne peut pas être la simple organisation juridique de la protection des droits fondamentaux, au travers, par exemple, de la justice constitutionnelle et de ses aménagements spécifiques de type question prioritaire de constitutionnalité en France, par exemple. Autrement dit, pour le fort, les droits de l'homme ne sont pas avant tout des droits positifs susceptibles d'être invoqués devant le juge. Et donc la formule « institution des droits de l'homme » ne renvoie pas aux institutions organes chargées de faire respecter ces droits. D'autre part, comme la définition lefortienne de l'institution exclut l'idée d'une institution issue de la volonté, alors les droits de l'homme ne sont pas non plus le résultat, par exemple, de la volonté des représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale le 26 août 1789. Et je laisse ici de côté le débat sur le naturalisme ou le volontarisme de la notion des droits de l'homme. En d'autres termes, pour le fort, l'institution des droits de l'homme n'est pas un simple acte historique non plus de fondation voulue par les hommes. En réalité, la grande originalité de la conception lefortienne des droits de l'homme tient à la façon dont il met l'accent sur leur caractère déclaratif. Pour le fort, en effet, les droits de l'homme n'existent que dans la mesure où une déclaration les consacre. Ces droits ne sont donc ni le reflet d'une nature intangible de l'homme, ni le résultat strict d'une dynamique historique. Ils tirent leur sens et leur force de l'acte de leur énonciation qui prend une valeur instituante. Je cite encore le fort. « L'idée de droit se lie à celle de leur déclaration. Il y a droit dès lors que l'homme déclare ce droit. » Cette idée très singulière revêt le droit naturellement d'une dimension symbolique qui ne peut se comprendre qu'à considérer la démarche générale de Lefort. Celui-ci inscrit donc l'énonciation dans un processus de réversibilité instituante de type merleau-pontienne, faisant des énonciateurs à la fois les sujets et les objets de leur déclaration. Il le dit d'ailleurs clairement dans un autre texte où, considérant le moment des deux déclarations de droit, l'américaine et la française, il affirme qu'il s'agit, je cite à nouveau, d'un extraordinaire événement, celui que constitue une déclaration qui est une autodéclaration, c'est-à-dire une déclaration dans laquelle les hommes, à travers leurs représentants, s'avèrent être simultanément les sujets et les objets de l'énonciation. Fin de citation. En d'autres termes, l'acte d'énonciation qui institue les droits de l'homme est en même temps rendu possible par cette institution même, la dynamique perpétuelle du social étant à la fois la source et l'effet du mécanisme d'institution symbolique. Je vais citer encore le fort. Les droits de l'homme sont énoncés. Les droits ne font pas simplement l'objet d'une déclaration, il est de leur essence de se déclarer. En faisant du caractère déclaratif des droits la source de leur institution, le fort ne fait au fond que prolonger l'idée d'une centralité du langage ou de la parole comme moteur instituant de l'intersubjectivité du social, c'est-à-dire comme ressort de l'existence politique de celui-ci. Dès lors, les droits deviennent-ils une fois déclarés comme les principes générateurs de la démocratie ? Ce sont des termes de Lefort. Les droits comme principes générateurs de la démocratie, c'est-à-dire une institution symbolique, une institution instituée, devenue à son tour instituante. Qu'il s'agisse donc de la façon dont il envisage la notion de représentation politique ou celle de droit de l'homme, force est de constater que Claude Lefort fait un usage très singulier, parfois déroutant, de l'idée d'institution. L'institution, au sens lefortien, est essentiellement un processus permanent d'institutionnalisation symbolique porté par l'intersubjectivité humaine et créateur de ce que l'on pourrait appeler un sens commun partagé, permettant à la société un mouvement réflexif vis-à-vis d'elle-même, l'autorisant à se penser comme société ainsi que comme corps politique. S'il fallait le dire d'une formule, je dirais volontiers que l'institution symbolique, le Fortien, est un phénomène social et politique marqué par la réversibilité. Une telle institution n'est ni normative au sens classique d'un organe producteur de contraintes et d'obligations, ni réductible à une création individuelle ou collective, au sens où cette création serait issue d'une ou de plusieurs volontés humaines, fût-ce par abstraction, fût-ce par fiction. Elle est la conséquence inévitable de la mise en œuvre continue de l'indétermination humaine. C'est pourquoi, d'une certaine façon, cette institution symbolique ne devient oppressive que lorsqu'elle est mensongère, c'est-à-dire lorsqu'elle tente de se substituer et de maîtriser le libre cours de l'intersubjectivité humaine, c'est-à-dire lorsqu'elle tente, comme le dit Lefort, de dénier la division constitutive du social. Cette institution mensongère, qui a des effets de forçage symbolique, c'est pour Lefort le totalitarisme. Mais rassurons-nous, car pour Lefort encore, le totalitarisme oppressif, comme le mensonge, n'ont qu'un temps. Pour Lefort, l'homme est, de par son indétermination fondamentale, condamné à l'émancipation démocratique, l'homme est condamné à la liberté. Merci de votre question. Je minore pas du tout l'influence des autres textes dont vous parlez, qui sont évidemment très importants pour avoir une vue complète du mouvement de la pensée lefortienne. Néanmoins, c'est vrai que mon opinion est qu'elle est particulièrement marquée, et c'est ce qui lui donne sa cohérence générale, par son recours au postulat merleau-pontien, qui, rappelons-le, a quand même été son maître. Lefort a édité les derniers textes de Merleau-Ponty, notamment les textes sur son ontologie finale. Mais voilà. Je crois vraiment qu'il est possible d'avoir une lecture qui est peut-être sans doute réductrice, mais néanmoins qui constitue un fil rouge en pointant vers l'importance de la philosophie merleau-pontienne chez Lefort, et dont la façon, en fait, finalement, dont il la met lui en œuvre, dont il s'en inspire. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a d'autres influences. On pourrait parler de Pierre Clastres également. Vous avez parfaitement raison. Mais disons que pour mon exposé, je trouvais que la question de l'institution était mieux rendue en focalisant sur l'élément merleau-pontien.
D'autres questions ?
On peut faire un point ?
Oui.
Oui, je voulais faire remarquer que la réversibilité du sujet et de l'objet de la déclaration, ça marche pas. Hein. C'est foireux, cette idée. L'objet de la déclaration, c'est ce que je déclare. Alors, je déclare que les hommes ont des droits. Il faut une proposition. Je ne peux pas déclarer l'homme. Ça ne marche pas.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il y aurait effectivement une critique à formuler. L'idée là a été d'exposer ce que j'en avais lu. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que ça ne marche pas. D'ailleurs, non, mais d'une certaine façon, c'est vrai que la réversibilité merleau-pontienne, exemple pour le lapsus, la réversibilité chez Lefort a ses limites. C'est-à-dire quand effectivement il dit ce phénomène d'auto-déclaration de représentants qui sont à la fois les sujets et les objets de l'énonciation, on est d'accord qu'il y a peut-être quelque chose là qui pourrait être critiqué. Donc j'en conviens parfaitement. Et je voulais ajouter, oui, c'est vrai que d'une façon générale, je crois que cette idée bon, d'institution symbolique, elle a un intérêt pour éclairer certains éléments symboliques, notamment dans les notions de représentation. Mais effectivement, en tant que juriste, on voit très vite la limite. Il y a cette forme de circularité. Si vous voulez, pour le dire autrement, Lefort aide à penser, il n'aide pas forcément à agir. Et parfois, au moment de la rédaction de ma thèse, je me faisais cette réflexion de Sacha Guitry, où dans un dîner, il y avait quelqu'un qui était arrivé qui avait fait cette phrase très grave au cours du dîner, qui avait dit à Sacha Guitry, vous savez, Monsieur Guitry, tout est dans tout. Et Sacha Guitry avait répondu, et inversement. Et donc parfois, c'est vrai que cette forme de circularité fait penser à peut avoir des dimensions peut-être stériles du point de vue de l'efficience. Voilà, je pense.
Merci beaucoup pour ces belles exposées. Moi j'ai une question naïve et du coup sans doute mal posée en t'écoutant, enfin même en disant le fort, voilà, j'entends bien cette idée donc, selon laquelle le politique et du social institué symboliquement, mais la question que je me pose, et je trouve que là l'exemple de la langue comme pratique et donc comme institution, la langue de parole, en tout cas, comme pratique, comme institution, justement, et trompeur, c'est au fond dans cette pensée que serait du social non institué symboliquement. Enfin, est-ce que c'est un des corrélats de cette thèse, c'est de pas dire, considérer que tout est politique et que finalement on est aussi privé d'un concept de social qui serait à la fois opératoire, dense, riche, mais qui serait pas du politique. C'est l'histoire de ça.
Oui. Je crois qu'effectivement, c'est peut-être une limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autonomie du social. C'est difficile de répondre, puisque finalement, Lefort, il est deux en permanence. Donc on a envie de dire, tout de suite, oui, il n'y a pas d'autonomie du social, et l'activité du social, le social est en lui-même une activité auto-instituante permanente, qui crée du symbolique, et ce symbolique, finalement, en faisant retour par la condensation de sens, crée le social comme une forme de corps politique. Bon. C'est à la fois l'intérêt et la limite. Je suis d'accord qu'il n'y a peut-être pas de champ particulier réservé. D'ailleurs, Lefort critiquait le fait de réserver un champ particulier aux sciences sociales, il l'a beaucoup critiqué, mais aux sciences sociales, mais également aux sciences politiques. Il pensait que toutes ces matières devaient se penser ensemble. Alors, penser tout ensemble, c'est très bien. Voilà.
Ma main droite, le président va donner la parole à ma main gauche, votre intervenant. Je te mets ensuite la parole à la commission. Il semblerait que ça sorte du débat sur le fort spécifiquement, qui est une réponse un peu lacanienne, qui est que le social peut être réel au sens du non symbolisable. Et que c'est même quelque chose de fort dans la phénoménalité du social que d'être non symbolisable. Et c'est un des sens que je donne à la formule, par exemple, chez Mouffe et Laclau, que le social est sans essence. Mmh. Et sans essence précisément parce que son essence ne peut pas être saisie phénoménalement. C'est pas pour autant que le social est absent phénoménalement, c'est qu'il est, en tant qu'il se donne dans l'expérience vécue, comme le réel chez Lacan, avec la brutalité spécifique de cette distinction. Et j'ai une autre petite observation, c'est que je trouve que vous dites que Lefort n'est pas nécessairement exploitable, si je puis dire. Il y a quand même ça suscite quand même des réactions chez un juriste. Par exemple, on pourrait dire, et je ne sais pas du tout si c'est une réponse, que ce soit ce que dit Vincent Descombes, c'est pas mon projet de faire un autre argument, mais on pourrait dire par exemple que le phénomène, la technique déclaratoire saisit le droit de l'homme dans une caractéristique intrinsèque au droit de l'homme, qui est que le droit de l'homme ne peut qu'être déclaré, par exemple, en tant qu'il ne peut pas être légiféré. Et il ne peut qu'être déclaré parce que dans son ontologie propre, il impose sa présence, et sa présence qui s'impose par avance ne peut ensuite, je dirais dans le regard du spectateur, que de faire l'objet d'une déclaration et pas d'une législation, c'est-à-dire un acte de volonté du souverain. Donc le fait même de la technique déclaratoire, qui est une grande invention de révolution du XVIIIe siècle, à mon avis, saisit cela. Et il y a une conséquence juridique dans les régimes juridiques qui est que le droit de l'homme ne peut pas être abrogé puisqu'il n'a pas été légiféré par un acte de volonté. Donc au fond, ces discussions-là sur qu'est-ce que c'est que de déclarer ne sont pas nécessairement sans conséquence ou sans écho dans le droit. Une autre très bonne illustration, c'est votre idée, c'est l'idée le fortuit de réversibilité. Ça marche quand même pas si mal quand on regarde comment se font les constitutions écrites. Parce que plus on réfléchit, et je vais essayer un tout petit peu de le faire, à ce que c'est que le pouvoir constituant, plus on se dit, contrairement peut-être à un grand absent d'aujourd'hui qui était au niveau, que dans le pouvoir constituant, il y a toujours déjà quelque chose de constitué. Par exemple, il y a toujours des lois pré-constituantes qui disent d'avance au constituant comment il va devoir s'y prendre. Donc c'est toujours un enchaînement, le pouvoir constituant, et le truc qui n'existe absolument jamais, c'est l'auto-institution du pouvoir constituant pur, pour laquelle la philosophie du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle, Lucien Raline, nous avait donné l'idée du soit du contrat social, soit de l'état de nature, etc. C'est-à-dire que dans le droit vraiment pratiqué, dans le droit constitutionnel réel, il n'y a jamais d'auto-institution du pouvoir constituant. Et donc au fond, la réversibilité, si je puis dire, c'est pas un outil inutile pour le juriste, de même que cette logique du déclaratoire n'est pas une chose sans écho dans la praxis. Alors, je reviens à la liste des gens qui se sont déclarés pour vouloir parler. Il y a Benoît Friedman sur cette liste.
Ça tombe bien parce que mon point, monsieur le président, est exactement le vôtre. Je vous vois apprécier votre exposé, mais vous cédez un peu vite à l'objection qui vous est faite par monsieur Lécon. Je pense que ça fait beaucoup de sens, et spécialement pour les juristes. Je pense à un texte qui n'est pas le texte le plus connu de Jacques Derrida, qui est peut-être dans le recueil, en présentation du recueil dans lequel il a été publié, Ornica, sur le texte Déclaration d'indépendance, qui est son premier texte américain, son premier texte juridique, je pense, dans lequel Derrida pose la question qui signe de quel nom, soi-disant propre, la déclaration d'indépendance, et il montre à quel point la déclaration institue le peuple américain qui est en train, par ses représentants, qui sont en train de signer et de déclarer cette indépendance. Et bien entendu, la même chose vaudrait pour le Bill of Rights, la Constitution, et pour le reste, il est inutile que je m'étende parce que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Denis Barranger. Donc, je pense que ça rend compte beaucoup de ce qui se passe dans le domaine du droit.
Cette question, qui n'en est pas une, vous voulez faire une réponse qui soit une réponse?
Non, mais je vais peut-être quand même essayer de répondre. Non, mais vous avez parfaitement raison. J'en conviens. Ma réponse portait. Monsieur Descombes, par rapport au fait que la déclaration crée l'homme. Alors, il ne s'agissait pas de ça, évidemment, elle crée l'institution symbolique. Donc, comment ? Elle crée les droits, voilà, les droits, effectivement.
Absolument pas, absolument pas. C'est une déclaration et non pas un acte de volonté.
On ne peut pas créer les droits de l'homme par une déclaration de droits de l'homme, on peut les reconnaître, c'est de la reconnaissance.
Oui, mais ceci dit, avant ils ne sont pas là.
Comment ?
Avant ils ne sont pas là.
Avant, il leur manque un caractère d'existence ou de surcroît d'existence, une sorte d'émanation, de surcroît d'existence. Il y a toute une phénoménologie, un vocabulaire de phénoménologie qui permet de parler de ça, mais ils ont besoin quand même d'être là avant en manquant de certaines caractéristiques de leur existence ou de leur phénoménalité pour que la déclaration vienne amplifier ça et leur donner un statut propre. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont complètement absents avant, sinon la déclaration ne serait pas une déclaration et on n'aurait pas eu besoin de révolution du fatwa.
Déclarer ne veut pas dire créer. C'est parce qu'ils sont déclarés que tout d'un coup, tout change. On est dans un autre système qui n'existait pas avant qu'on les ait déclarés, même si bien entendu ils existaient déjà.
Oui, il y a une sorte de parodie, il y a quelque chose comme ça, mais c'est. Enfin voilà.
Mais ce qui veut dire aussi que du point de vue de leur nature, ce qui est, ça c'est important quand même, je pense, c'est du point de vue de leur nature, ces droits déclarés ne sont pas non plus des droits naturels exposés ou rappelés. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit finalement de les faire exister comme instance symbolique, c'est-à-dire comme finalement condensation de sens propre à se mouvoir par l'avenir. C'est aussi ce qui donne, il ne s'agit pas de droits naturels dont on pourrait, voilà, sur lesquels on pourrait se fonder substantiellement, il s'agit plutôt... de, comme le dit Lefort, de principes générateurs de la démocratie qui sont en eux-mêmes... Lefort dit ailleurs qu'un droit déclaré appelle à la création d'autres droits. Et on voit par exemple, je prends un exemple contemporain, enfin même d'ailleurs tout à fait récent, je voyais que récemment une femme en Arabie Saoudite a été mise en prison parce qu'il y avait eu la demande, ce combat pour qu'elle puisse conduire. Et alors là, apparemment, le pouvoir veut absolument cesser cette demande de droit qui va croissante. Et alors là, on est véritablement dans quelque chose que Lefort a décrit, c'est-à-dire que la déclaration de droit ou le fait d'en appeler aux droits de l'homme crée un mouvement, une dynamique qui est en elle-même inarrêtable. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, substantiellement, il n'y a pas une diversité qui se crée sur les droits, sur les demandes qui adviennent, mais ce fait déclaratif met en place effectivement une institution symbolique qui est vouée à créer une dynamique perpétuelle.
Ça, si on en est à la gauchette, c'est que la révolution des droits de l'homme n'est jamais terminée. Par contre, notre conférence ne va pas, en tout cas cette session, ne va pas tarder à se terminer. On a quand même du temps pour d'autres interventions, soit sur ce qui a été dit ce matin, soit sur les dernières interventions, soit de manière générale.
Alors moi, j'en ai peut-être une.
Eh bien, bien sûr.
Alors j'en ai peut-être une justement pour vous, professeur Descombes, puisque tout à l'heure parce que vous m'avez fait penser à ça dans votre intervention de ce matin sur la règle régulatrice et la règle constituante et l'exemple du jeu d'échecs. Et alors là, c'est un peu le lecteur de Lefort qui vous pose la question. Vous disiez effectivement, donc il y a une partie d'échecs, il y a la règle qui précède la partie d'échecs, et finalement, s'il n'est pas possible pour le pion de manger la dame, puisque si le pion mangeait la dame, en fait, l'acte serait nul. Or, que se passerait-il? Quel serait le statut, finalement, de quelqu'un qui serait obligé, l'adversaire serait obligé d'accepter que le pion mange la dame face à un adversaire qui lui mettrait un pistolet sur la tempe en lui disant « désormais, c'est ça la règle ». C'est finalement une forme de forçage symbolique que Lefort considérerait, par exemple, lui, comme précisément, c'est très proche de sa définition du totalitarisme, c'est-à-dire que désormais, le mot paix veut dire guerre, pour reprendre l'exemple d'Orwell, c'est-à-dire un forçage symbolique que tout le monde est obligé d'intégrer comme une nouvelle règle du jeu. Donc, je voulais savoir quel serait le statut de ce coup d'État, si je puis dire. Ah oui, l'exemple est mauvais, de loin.
L'idée de la règle constitutive, elle est précise, mais elle est limitée, n'est-ce pas? C'est simplement un moyen de répondre à la question que décrivons-nous quand nous décrivons des gens en train de jouer aux échecs. Et il apparaît qu'on peut donner une description qui serait neutre par rapport à toute normativité, à savoir... ils font des mouvements. Et le problème, c'est donc comment enrichir notre description et dire qu'ils font ces mouvements comme un jeu d'échecs. Alors, si on observait dans une autre culture des gens avec des échiquiers, les pièces d'échiquiers, mais qui font des mouvements que nous ne comprendrions pas par nos règles d'échecs, ben on dirait qu'ils jouent à un autre jeu. Pourquoi jouent-ils à un autre jeu? Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a un pouvoir totalitaire qui les brutalisent, ou est-ce parce qu'ils ont décidé de changer de jeu? C'est, au fond, c'est pas la question ici. La question, c'est que nous pouvons passer d'une description, si vous voulez, cette idée de règle constitutive, les juristes, je pense, la connaissent avec l'idée de qualification. Est-ce que la personne qui est accusée peut se défendre d'avoir volé une baguette à la boulangerie? Alors, il y a une réponse qui dirait « j'étais pas là, je peux le prouver ». Bon, alors, à ce moment-là, on ne peut pas décrire la personne comme ayant pris du pain. Mais le problème de défendre l'accusé, ça serait, en général, c'est pas ça, c'est de dire oui, il a pris la baguette, mais on lui avait donné, ou je sais, il y a une circonstance qui fait que cette description. Nous sommes d'accord sur la description du mouvement physique, mais nous divergeons sur la qualification, c'est-à-dire sur une seconde description plus riche qui ajoute des circonstances que la première description ne prenait pas en compte. Et donc, pour ce qui est de décrire l'activité linguistique, nous avons, si vous voulez, c'est des actes de langage, là, de Austin, et, n'est-ce pas, il y a une description purement phonétique, et si je veux l'enrichir de façon à avoir la dimension du sens, je dois non pas ajouter des actes mentaux, mais bien ajouter la langue, c'est-à-dire la règle définitoire qui précède. Alors maintenant, une fois ceci posé, les langues évoluent, les règles évoluent, les jeux peuvent évoluer, on peut enrichir le jeu d'échecs, c'était évoqué tout à l'heure, n'est-ce pas ? On peut faire un jeu plus compliqué en ajoutant des complications, on peut, à ce moment-là, on change de jeu. Et alors évidemment, ça pose le problème, mais à partir de quel moment change-t-on de jeu, n'est-ce pas ? Par exemple, dans les tournois d'échecs, n'est-ce pas, on a imposé des contraintes de temps. Est-ce que ça change le jeu ou est-ce que ça le précise ? Oui. Donc, on peut poser ces questions, mais on ne peut les poser que parce qu'on a accepté d'emblée l'idée qu'il y a une activité qui n'existe que si elle est rendue possible par l'institution qui est en place. Bah, j'en profite, ça me... Je veux revenir sur cette affaire d'opposition qui est derrière, d'autant plus que vous avez cité Derrida, donc ça tombe complètement dans le... Et le fort, c'était aussi la même chose. Tout le monde veut éviter la pure auto-opposition, l'auto-création totale, et donc il faut qu'il y ait déjà eu des sédimentations, il faut que... Et donc vous dites l'instituant et l'institué. Alors, réversibilité, l'instituant est déjà institué, l'institué a des effets instituants. Ben, c'est pas si simple. La réversibilité, c'est une vieille affaire empiriste, n'est-ce pas ? C'est la statue de Condillac. Et d'ailleurs, c'est là que Merleau-Ponty, je ne sais pas s'il le prend là, mais enfin, il connaissait très bien ce texte. Il y a le moment où la statue se touche elle-même, et donc elle est touchante et touchée. Alors là, elle ne peut pas être. N'est-ce pas ? Si elle se touche elle-même, elle ne peut pas toucher, c'est-à-dire avoir une sensation d'un corps qu'elle touche sans avoir en même temps la sensation de toucher un corps. Mais c'est causal, n'est-ce pas ? La relation est causale. Le touchant est touché, le touché est touchant par le fait qu'il y a le contact. Il y a le contact physique, c'est ça l'explication. En revanche, toutes les démonstrations que vous évoquez, effectivement, qui signe la déclaration d'indépendance puisque les États-Unis n'existaient pas avant et c'est seulement après les... Bon, ces questions sont celles de l'auto-institution, mais là, nous ne sommes pas dans une question de causalité. Et la production par une déclaration n'est pas un acte causal, c'est une affaire de sens. Et donc, il y a une différence entre la réversibilité sujet-objet de type touchant-touché et le type d'implication réciproque, de complémentarité, en fait, ce serait ça le bon concept, entre les statuts institués et instituants. S'il est vrai que je ne peux pas instituer sans avoir moi-même été instituant, je ne peux pas être instituant, par conséquent, exercer un pouvoir instituant sans avoir reçu, d'une façon ou d'une autre, donc être institué, ce pouvoir, n'est-ce pas ? Il faut que je l'ai reçu, donc il faut que je sois institué pour instituer. Là, ce n'est pas une question causale, il n'y a aucune causalité, il n'y a aucune production ontologique. Il s'agit d'une question des relations conceptuelles entre ce qu'on appelle être institué et ce qu'on appelle instituer quelque chose. Donc c'est la limite, je pense, de ce passage de la réversibilité psychologique à la Condillac au problème qui nous occupe, qui est la complémentarité des fonctions instituantes et instituées.
Est-ce que je peux dire un mot sur le forçage symbolique ? Moi, je pense qu'on va jouer encore à c'est plus compliqué. Moi, je trouve que c'est plus compliqué. Parce qu'il y a une première boutique, une première position, c'est on joue à la règle du jeu, dans les échecs classiques. Et une deuxième position, c'est quelqu'un change la règle du jeu, du genre on ajoute une règle, et à ce moment-là, c'est un jeu numéro 2. J'aurais tendance à penser que le forçage symbolique ou le totalitarisme, ce que j'appellerais plus généralement la position ultimate, c'est de dire on joue au jeu numéro 1, mais j'ai changé les règles, mais ça reste le jeu numéro 1. Vous voyez ? On ne peut pas dire qu'on est passé à un jeu numéro 2, parce qu'à ce moment-là, n'y a pas de problème, il n'y a pas de tricherie. Or, la position de Humpty Dumpty en interprétation dans l'Histoire au pays des merveilles, ou la position totalitaire, c'est de dire c'est la paix, mais c'est en même temps la guerre, ou c'est la guerre, c'est en même temps la paix. C'est-à-dire le jeu numéro un reste le jeu numéro un, il en conserve les caractéristiques que tout le monde accepte, mais moi, en trichant, j'en ai changé les règles et je vous impose de dire que ça reste le jeu numéro un. Du genre, je vous supprime toute liberté, mais je vous impose de dire que vous êtes libre. J'ai l'impression que c'est ça le force en chemin. Je ne sais pas si j'ai interprété correctement.
Je pense que vous posiez votre question à M. Descombes, mais parce qu'en fait, je voulais poser exactement la même. C'est-à-dire, que se passe-t-il quand il y a un monopole de la qualification que le pouvoir totalitaire s'arroge le monopole de la qualification, effectivement, et que, alors même qu'on est en train de jouer un autre jeu, il est interdit à tout le monde de le dire. Voilà, et on doit dire, effectivement, que c'est encore le jeu d'échecs. Bref, parce que pour le fort, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est le monopole de la qualification. Si vous voulez, le pouvoir mensonger totalitaire, voilà son caractère oppressif. Donc, voilà.
Il nous reste 3 minutes.
Ah. Non, c'est assez juste cette idée que le pouvoir totalitaire, c'est les gens dans une situation paradoxale. Vous devez dire paix quand c'est la guerre, mais vous devez comprendre par le mot paix ce qu'on appelait paix et non pas guerre. Parce que si on se contentait d'échanger les étiquettes, il y aurait, ça serait simplement un codage, n'est-ce pas ? Ça serait la conversation devait être cryptée. Je dis paix et vous devez comprendre ce que dans le nouveau code. Mais là, le problème, c'est qu'on est censé penser une chose et dire le contraire. Et se convaincre que ce qu'on a dit, bon, donc c'est une tâche impossible, bien entendu. Ce qui irait dans le sens d'une autodestruction du totalitarisme, c'est votre conclusion.
C'est ça.
Oui, pardon. Je voulais juste faire une remarque par rapport l'introduction de l'apparition de Derrida dans le débat, parce que ce qui me frappe beaucoup, notamment en lien avec cette question différence de registre entre le niveau du causal, en effet, et le niveau du symbolique, et que l'apparition de Derrida aussi m'a fait penser, c'est que, évidemment, il y a eu le débat entre Derrida et Searle sur les actes de parole, et une interprétation possible du débat qui me paraît juste et qui a été faite, qui a été développée, argumentée, etc., par Raoul Moati, c'est que, malgré... beaucoup de choses grèvent la justesse de ce débat et son bon dénouement. Mais néanmoins, il semble que Derrida échoue à comprendre dans les actes de parole leur dimension conventionnelle. Et précisément à rabattre l'efficacité du langage sur une efficacité, sur la force en fait. Et donc peut-être à manquer la différence de registre entre le registre du conventionnel et le registre du causal. Sans doute, là, il y a quelque chose qui, évidemment, qui a à voir aussi avec le totalitarisme qui est dans le domaine de la force et qui sort de peut-être conventionnel. Enfin, voilà, c'est une remarque, une question, mais il me semble que là, il y a quelque chose d'important, en tout cas.
Le temps de notre partie d'échec collectif est écoulé. Je vous donne rendez-vous à 14h30. Merci à tous.